Consommer local vous intéresse ? Ce podcast de Sud-Ouest est accompagné par le mouvement hashtag Bordeaux local, une campagne qui met en avant les acteurs économiques girondins, les établissements, les hommes et femmes qui jouent la carte des produits locaux et des vins de Bordeaux. Aujourd'hui, plus que jamais, l'ensemble des acteurs locaux doivent se soutenir et participer à une économie plus solidaire, responsable et engagée. C'est pourquoi l'interprofession des vins de Bordeaux, l'UMI Gironde et l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole ont conçu ce mouvement, avec l'adhésion de nombreuses personnalités. Si vous aussi vous êtes hashtag Bordeaux local, rejoignez-nous en découvrant les établissements qui mettent en avant les produits locaux, en vous inscrivant sur bordeauxlocal.fr et en partageant le hashtag Bordeaux local.
Bonjour, je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez Les 4 saisons du vin, saison 6. Les 4 saisons du vin est un podcast de la rédaction de Sud-Ouest. Merci d'être là. Bonne écoute.
15% de la surface du vignoble de Nouvelle-Aquitaine est en bio. Mais la crise ne les épargne pas non plus. Peut-être même les frappe-t-elle plus que les autres dans un contexte d'arbitrage économique. Comment vont les bio ? Comment vont les viticulteurs en agriculture, en viticulture biologique ? Comment se vendent les vins bio ? Le syndicat des vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine s'est récemment réuni et on donne la parole aujourd'hui à Pierre-Henri Cosins, ex-président du syndicat des vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine, qui a été remplacé par Pascal Boissonneau. Et s'il a passé la main tout récemment, il reste un acteur et un expert de cette économie. Alors on va l'interroger aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez un épisode de la saison 6 des 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis avec César Compade, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest. Bonjour César.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et nous accueillons aujourd'hui Pierre-Henri Cosins.
Bonjour.
Alors je le disais, vous êtes l'ex-président du syndicat des vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine. Plus de 230 membres, si je ne m'abuse, et vous allez nous le confirmer, remplacé par Pascal Boissonneau tout récemment. Pascal Boissonneau qui est vigneron en Sud-Gironde et en Coteaux du Marmandais. Alors pour votre part, Pierre-Henri Cosins, vous êtes propriétaire du château Grand Launay en Côte-de-Bourg, à peu près 25 hectares. C'est Michel Cosins, votre père, qui vous a transmis cette propriété. Votre père qui avait été formé, je le signale, par Émile Pénaud, grand nom à Bordeaux. Aujourd'hui, vous commercialisez une gamme de vins entre 7 et 20 euros. Vous êtes ingénieur de formation. Et avec vous, on voulait faire le point sur l'économie du vin bio en Nouvelle-Aquitaine. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés ?
Vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine, c'est une association qui a presque 30 ans d'ancienneté, qui a été montée par des viticulteurs pour défendre en fait les vins bio au niveau commercial et aussi développer tout ce qui est œnologie, vinification. Nous, on est surtout dans la fin de la chaîne de production pour accompagner les vignerons, leur donner des outils et leur permettre d'accéder à des marchés plus facilement. Au niveau de la France, le vin bio, aujourd'hui, c'est 21,5% des surfaces. C'est une exception dans le monde, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Ça fait quand même 170 800 hectares, c'est pas négligeable. Si on compare à Bordeaux, on est quasiment plus grand en bio français que sur la surface bordelaise, donc il y en a vraiment partout. En Nouvelle-Aquitaine, vous l'avez dit, c'est 15% avec 2036 exploitations et 35 706 hectares. Et si on fait un focus sur la Gironde, là on arrive à 23%. Donc mieux que la moyenne nationale, et la Gironde avec donc 1298 exploitations et 27 242 hectares est le département le plus imprégné par cette culture biologique en viticulture. Et on pourrait même dire qu'au niveau national, c'est le premier département d'appellation d'origine contrôlée avec le label bio.
Donc effectivement, il faut le noter, aujourd'hui, un quart du vignoble girondin est en bio. Et on ne le signale pas assez.
J'ajoute aussi que pour être totalement franc, sur ces 23%, il y a 53% qui sont en conversion et qui marquent effectivement un basculement qui s'est fait dans les 5 dernières années.
Ceci étant posé, César, je me tourne vers toi.
On peut ajouter, Mathieu, deux choses à mon avis. D'abord, un point technique, puisque le bio est connu en France. Il y a toute une problématique autour de la manière de travailler, des traitements produits phytosanitaires. Évidemment, le bio, comme son nom l'indique, a une finalité de protection de l'environnement très importante. Donc, à aborder ce point des traitements phytosanitaires, d'autant plus que nous sommes en train de commencer la campagne. La vigne pousse pour donner sa récolte en septembre. Donc, ce premier point technique. Et le deuxième point, tu l'as effleuré, Mathieu, c'est la situation économique. La situation économique est difficile à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine. Et les bio sont également en difficulté, et on en parlera avec notre invité, de savoir si certains viticulteurs, pour un bio, pour une raison ou une autre, abandonneraient le bio et reviendraient à de la viticulture conventionnelle. Voilà les deux points, un point technique et un point économique.
Pierre-Henri Cozins, votre association vient de tenir son assemblée générale. Nous sommes en cette fin avril, nous enregistrons en cette fin avril. C'est quoi l'état d'esprit et quel est le message général ?
L'état d'esprit, c'est quand même beaucoup d'inquiétude sur le marché, notamment le marché français. Et l'état d'esprit, et on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de preuves de résilience. Mais jusqu'où on doit aller pour pouvoir aussi gagner notre vie ? Parce qu'on peut protéger la nature par le biais de l'agriculture biologique, on peut avoir des convictions, mais tout ça ne tiendra que si on trouve une valorisation au bout et si on arrive à protéger nos systèmes économiques. L'état d'esprit, c'est aussi de resserrer les rangs, de se dire que l'agriculture biologique, elle ne doit pas fléchir aujourd'hui. Il y a une réelle attente sociétale. On n'est pas là pour être juste une tendance. On est là pour être dans l'air du temps. Et à terme, on aura pour vocation de disparaître le jour où tout le monde sera bio.
Resserrer les rangs. Il y a tout de suite une première question qui me vient, parce qu'on l'entend actuellement, c'est la question finalement des conversions. Parce que la situation économique est difficile. Finalement, c'est comme quand on fréquente des magasins produits biologiques, on voit que ce sont des magasins qui souffrent parce que les clients font des arbitrages économiques, les ménages font des arbitrages économiques. C'est très probablement la même chose sur les vins bio. Comment vous abordez la période là ?
Effectivement, nous, alors je le dis de façon un petit peu familière, on a le cul entre deux chaises. On profite à la fois, ça c'est un petit peu, à la fois de la crise du vin bio et on profite à la fois de la crise de l'inflation des ménages. Donc on l'a vu, effectivement, en grande distribution, mais aussi dans les magasins spécialisés bio, des pertes de performance. On voit quand même à l'horizon quelques points positifs qui se dégagent. On voit qu'en Allemagne, ça repart un petit peu. On essaie de dire à nos vignerons, motivez quand même au maximum vos circuits qui fonctionnent, c'est-à-dire les circuits directs pour ceux qui font de la vente directe, parce qu'en direct, ça fonctionne toujours. Vous savez que 80% du local, c'est du bio à l'origine. On parle beaucoup de local, donc il faut insister sur ces sujets-là. Sur les petites exploitations, ça marche très bien. Après, pour les gens qui sont tournés sur l'export, il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a beaucoup de marchés export qui s'ouvrent aussi. Donc, c'est pas facile. En culture conventionnelle, il y a une vraie remise en cause. Mais en bio, on a un peu ces phénomènes de paliers, de plafonds qui arrivent. Et on a l'habitude de tenir pour les faire exploser. Malgré tout, clairement, les efforts sont là. Produire en bio, ça coûte plus cher. Et si on ne valorise pas, on se pose beaucoup.
Justement, produire plus cher, je rebondis, c'est une question qu'on se pose souvent. Le vin bio, il est plus cher que le vin conventionnel ? Ou pas, et de combien vous l'évalueriez ?
En fait, plus on va monter en gamme, plus la différence de prix va s'étioler. Clairement, sur une entrée de gamme, plus vous allez acheter moins cher un vin bio, plus le producteur va être sujet à perdre en rémunération, voire en rentabilité sur son exploitation. Mais vous trouvez des vins bio à tous les prix. Nous, on estime qu'il faut caler quand même le vin bio sur une réalité de production, c'est-à-dire à partir de 7 euros sur un vin sans AOC qui est en bio, on commence à être pas mal. On avait fait des études il y a quelques années avec toutes les interprofessions bio sur le vin. Et on avait notamment soulevé que le consommateur était prêt à mettre 6 euros dans une bouteille de vin bio sans appellation. Donc après, c'est comme pour les appellations d'origine contrôlée. Il faut réussir à valoriser nos signes d'identification et de qualité d'origine, parce que l'agriculture biologique, c'est aussi l'INAO, c'est aussi ce genre de signe. Et il est hors de question de concéder un prix inférieur, parce que ça devient compliqué.
C'est une vraie interrogation et c'est une vraie question. C'est, on en parle souvent, la question des prix des vins. Un point de repère, c'est un bon vin bio, un vin bio qui permet de faire travailler toute la filière et de faire vivre les gens qui y travaillent.
En IGP, en indication géographique, en 20 pays, 6-7 euros avec des rendements cohérents, oui, ça va. Après, quand on passe sur de l'appellation d'origine contrôlée, il faut être à 10 euros minimum. Sur une générique Bordeaux, je pense que c'est quand même un minimum. Il faut que le consommateur, qui cherche d'ailleurs des produits de qualité, intègre ça. Mais je dirais, c'est la même chose pour le conventionnel. Parce que si on fait des comparatifs de coûts de revient sur le terrain, ce que fait la Chambre d'agriculture depuis longtemps pour que nous, agriculteurs, nous ayons des outils de gestion, on se rend compte qu'en fait, à rendement égal, le différentiel, en fonction des typologies d'exploitation, on est entre 5 et 20% à la production.
De coûts de production ?
Oui, de coûts de production. Sur des rendements équivalents. Ouais. Mais en bio, on perd toujours un peu de rendement. Mais si on regarde en 2023, les conventionnels, on fait que 35 hecto-hectares en Bordeaux. Et des bio ont tout perdu aussi, et des conventionnels aussi. Donc c'est très variable d'une exploitation à l'autre. 10 euros, ça permet de couvrir des frais corrects sur un millésime correct. Et ça permet aussi d'encaisser une année de temps en temps qui va se passer difficilement.
Une année sur cinq, souvent, en moyenne, hein, c'est ce que j'entends.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça, César. Oui, ça, vous voyez, 2023 compliqué, 2018, bon, c'était peut-être 5 ans, voilà. 2021 compliqué aussi. Et puis, de façon très localisée, on a des orages. Et ça, c'est très, très, très difficile. On y reviendra peut-être après, mais la vigne, c'est une culture très fragile. Et avec nos protections qui sont uniquement préventives, sans chimie de synthèse, dès qu'on a une fragilité, on la traîne toute la saison. Et les pertes de 2023 ne sont pas uniquement liées à la problématique mildiou, mais aussi à un affaiblissement de la plante en début de campagne par certains petits orages de grêle.
Abordons deux points. Le premier, pour en terminer, c'est la distribution. Effectivement, il faut vraiment signaler que la filière bio, elle s'est historiquement construite sur ou de la vente directe ou au moins du circuit court. Hein. Ça, c'est un premier élément.
Si on ventile aujourd'hui les différents secteurs, vous avez 20% de circuits courts, de vente directe ou sur les salons, les foires. Vous avez entre 15 et 20% qui va se faire en grande distribution. Donc c'est petit par rapport à ce que fait la filière conventionnelle, on va dire. Et on a 42% sur de l'export. Parce que c'est souvent des vignerons qui ont eu l'envie d'aller vendre leur vin à l'extérieur, etc. Et puis il reste 10% que vous allez mettre sur les cavistes, hôtellerie, restauration. Sachant que les cavistes aujourd'hui ont des gammes qui vont entre 50 et 100% de vin bio. Donc c'est un réel avantage pour commercer du vin. Et je dirais même que c'est une arme de négociation.
Et le deuxième point que je voulais aborder avec vous aussi tout de suite, c'est la clientèle.
Il y a des tendances, oui, sur ces sujets-là. On a un crush avec les jeunes, hein, comme on dit. On est un peu la ref. Alors, ça peut passer par le vin nature, le vin sans soufre, le vin bio. Ça marche aussi très bien à l'étranger, notamment sur les pays nordiques. Hein. Ouais. Le logo bio est toujours demandé en affichage principal de l'étiquette. C'est une réalité. Le hipster, comme on le définit aujourd'hui, on l'imagine avec une bouteille de rosé bio, demain peut-être de Bordeaux, aujourd'hui d'autres contrées, mais de vin rouge certainement et de vin blanc aussi. Mais malgré tout, en ce qui me concerne personnellement et pas mal de mes collègues, on accroche aussi une certaine génération un peu plus, je veux dire, un peu plus ancienne, qui avait l'habitude de boire des vins pour boire du vin, mais qui sont aussi très intéressés par cette découverte du vin bio, par cette possibilité, et puis surtout par tout le storytelling qui va derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous raconte le vigneron? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il travaille avec les vignes? Avec la lune? Avec, mais est-ce qu'ils ils ont plein de mythes, et nous, on est là pour démystifier tout ça et pour leur dire, attendez, c'est pas si compliqué que ça. Et dans l'appréhension d'un vin, c'est quand même sympa de savoir qu'il est fait de façon la plus naturelle possible.
Justement, il y a un mythe, il y a vraiment un mythe, Mathieu, on l'a souvent abordé ici, et même, ça m'arrive assez régulièrement en ville ou ailleurs, on me dit, ah oui, un viticulteur bio, ah, c'est très bien parce qu'il ne traite pas. Et alors là, ça je l'entends très souvent, et donc, je voulais vous poser la question pour expliquer à nos auditeurs que oui, vous sortez le tracteur, oui, vous traitez, mais en quoi ce que vous faites est différent d'un viticulteur conventionnel?
On n'a pas de langue de bois sur ce sujet. C'est vrai que souvent, on nous colle même l'étiquette de dire « oui, vous prétendez que vous ne traitez pas ». Mais en fait, on n'a jamais vraiment caché ce qu'on faisait. D'ailleurs, la plupart des vignerons qui sortent avec le vigneron bio, qui sortent avec leur appareil de traitement, écrivent en gros « je traite en bio » sur leur... c'est des gros stickers qu'on a. Il n'y a pas de souci. L'agriculture biologique, pour revenir un petit peu sur ce sujet-là et bien comprendre les choses, c'est un mouvement qui est apparu en 1924 suite à l'agriculture biodynamique, qui s'est structuré dans les années 60 et qui avait pour vocation en fait de faire des traitements, mais de enfin en tout cas de protéger sa plante avec que des possibilités naturelles. On sait que sur certaines cultures comme la vigne, on a besoin d'aller un peu plus loin. Donc les produits qu'on utilise pour les traitements, ce sont des traitements minéraux. Sans langue de bois, la bouillie bordelaise, le cuivre ou d'autres formulations de cuivre ou le soufre, qui sont des produits qui sont, alors pour le soufre, placés en biocontrôle dans la hiérarchie des produits et pour le cuivre, en produits toxiques pour le sol s'il est en accumulation, mais pas toxique pour la personne s'il est utilisé avec bon escient. L'accumulation, qui est une problématique pour la terre,
dans le sol,
qu'on nous colle souvent sur la peau, elle était vraie il y a quelques années quand on traitait à 40 kHa de vignes, enfin nous, en tout cas, toute la viticulture, parce qu'il n'y avait que ça à l'époque, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des doses très minimes qui sont de 4 kHa, et l'INRAE a bien soulevé dernièrement que ce sont des doses qui... sauf accumulation, n'ont pas de problématique pour l'écosystème. Et on voit très vite, quand on fait une conversion en bio, au bout de 2-3 ans, revenir pas mal de choses sur nos terroirs. Donc on n'a pas de tabou sur ce sujet-là, on est prêt à argumenter, et la science est avec nous.
La grande différence, c'est que vous n'utilisez pas donc, de produits chimiques de synthèse, vous utilisez donc du cuivre et du soufre, qui sont entre guillemets des produits... plus fragile, ou en tous les cas, dès qu'il pleut, il faut traiter. Donc en fait, vous êtes davantage sur votre tracteur, et si j'ose dire, quand il pleut, vous dormez moins bien qu'un viticulteur conventionnel. C'est voilà. Ça qu'on peut expliquer.
Oui, c'est des traitements qui sont préventifs, et qui ne tiennent que, allez, entre 20 et 30 mm de pluie, on est obligé de repasser. Alors sur un millésime classique, on va être limité, enfin on va se limiter à 4 ou 5 traitements. Sur un millésime plus compliqué, on va dépasser les 10 traitements. En fait, pour bien comprendre ce que c'est qu'en conventionnel, vous pouvez avoir des produits curatifs, qui sont des produits un peu plus... qui sont synthétiques, donc qui ne sont pas autorisés parce qu'ils ne sont pas minéraux, on ne les retrouve pas à l'état naturel dans la nature. Le cuivre existe à l'état naturel, même nous, on a besoin de doses de cuivre minimales pour notre personne. Mais nous, on n'utilise que des produits préventifs, donc... Autant le conventionnel, quand il traite toutes les semaines, il est en championnat de France. Autant nous, c'est Ligue des champions avec élimination directe. Le traitement n'est pas efficace, il est raté pour X raisons. On perd la récolte dans la foulée. Donc, c'est clairement une culture déjà qui est fragile, la vigne. Mais en agriculture biologique, ça demande une réelle technique.
Vous prenez beaucoup de risques.
Il y a énormément de risques à prendre. Et c'est là où des syndicats comme Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine interviennent, parce qu'il faut structurer tout l'accompagnement du viticulteur sur le territoire pour qu'il arrive à se défendre dans ses problèmes. Sachant que sur certains millésimes à gros risques, comme 2018, il y a eu des trous dans la raquette, ou en 2023, et il y a eu des pertes de récoltes conséquentes.
Des années où il y a eu beaucoup de mildiou, en fait.
Mildiou, mais souvent il y a des fragilités de la plante localement qui amplifient en fait, les problématiques de mildiou.
Un jeune qui voudrait se lancer aujourd'hui, qui a donc connu 2018, qui a connu 2023, vous le conseilleriez, j'imagine, d'aller vers le bio, mais il y a de quoi être inquiet avec ce que vous dites.
Moi, je pense que demain, la vraie problématique, c'est comment on va valoriser nos vins. Et c'est comme pour l'agriculture. Aujourd'hui, on a un gros débat pour savoir est-ce qu'il faut dénormer l'agriculture, revenir en arrière, donner plus de liberté vis-à-vis de la protection de l'environnement, etc. On peut le faire. On peut se dire qu'on va diminuer les coûts de production dans le vin, en agriculture, sur toutes les cultures, si vous voulez. Par contre, on aura toujours un problème de normes sociales, ou en tout cas une réalité de normes sociales dans notre pays, qu'on ne pourra pas compenser. Parce que dans les autres pays, ils seront toujours moins chers en termes de main-d'œuvre, en termes de réalité sociale. Donc il faut qu'on fasse un choix, qui est un choix national, qui va être celui de comment on fait vivre nos agriculteurs, comment on les valorise. Et nous, on pense que par l'agriculture biologique, on atteint un seuil de valorisation, une volonté qu'il faut mettre en avant, que personne d'autre dans le monde est capable de faire. Et c'est une voie de la valorisation. Et à ça, on peut rajouter qu'on est en viticulture, on n'est pas sur un produit alimentaire de première nécessité, ni de souveraineté alimentaire, qu'on a une pression sociétale qui nous dit « je veux un voisin exploitant qui protège mon jardin quand je prends l'apéro, plutôt que d'envoyer des produits, même s'ils sont homologués, qui sont susceptibles d'être dangereux ». Donc l'agriculture biologique, elle s'inscrit dans la demande sociétale et à terme, elle peut réussir à répondre à cette demande. Par contre, il faut trouver des besoins de valorisation. Mais ils ne sont pas inatteignables. Ils ne sont pas si loin que ça. On parle de 10 euros la bouteille pour avoir une viticulture correcte. Aujourd'hui, où on a un virage, où on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que ce sera la viticulture de demain, comment on va valoriser nos vins. Soit on a le choix de faire des vins, je dirais, de façon un petit peu agressive, industrielle et massif, soit on fait des vins de qualité. Il faut aussi que le commerce intègre aussi cette notion-là pour y aller. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on se démène à faire des vins les moins chers possibles en majorité, et on continue à importer des vins espagnols. Je dis pour le bio, je dis pour tout. Les efforts des viticulteurs ont été réels ces dernières années. Il faut vraiment qu'on surfe sur cette possibilité de valoriser avec ses qualités environnementales.
Finalement, et ça c'est un discours qui est extrêmement fédérateur, c'est il faut qu'on sorte dans le monde du vin du moins-disant économique.
C'est forcé, on va y arriver de façon parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le vignoble, c'est une réelle agonie des vignerons. Il va y avoir une conséquence, c'est que derrière on va avoir aussi des défaillances d'entreprises commerciales, hein, de négoces réels, parce que si nous on serre la ceinture, eux aussi serrent la ceinture. Pourtant, les efforts environnementaux, ils ont été faits. Moi, je suis arrivé vigneron en 2003, 2004. J'ai commencé le bio pour des convictions personnelles. Et puis, mes parents sont décédés très tôt pour différentes raisons. J'avais envie de rajouter une pierre à l'édifice d'une entreprise qui fonctionnait très bien. Mais depuis, on ne fait que diminuer la rémunération du vigneron.
Depuis 20 ans.
Alors là, on arrive à bout, là, c'est plus possible. Mais moi, mon père, il vendait deux fois plus cher le tonneau de Côte de Bourg que celui qui est proposé aujourd'hui. Moi, j'avais
avec
ce
avec
choix.
Toute l'inflation qu'il y a eu depuis.
Et là, je vois César qui fronce les sourcils et qui se dit oui, effectivement.
C'est catastrophique. Dire qu'il y a 20 ans, votre père gagnait plus que vous, j'imagine que. Vous travaillez, c'est plus technique, c'est plus pointu, c'est plus responsabilisant. Finalement, on va en parler, Mathieu, mais ce qui se passe avec le plan d'arrachage aujourd'hui, on est en train de se dire que c'est 20 ans de recul. Et finalement, on ne l'a pas vu venir, finalement. Il y a eu beaucoup de le marché chinois et autres qui a fait que tout ça a été caché.
Et puis, je précise, parce qu'il ne l'a pas dit, Pierre-Henri Cosins est un ancien ingénieur en informatique, donc vous auriez très bien pu continuer sur une autre voie.
Oui, moi je suis parti faire autre chose parce que je voyais mes parents travailler comme des dingues et je me suis dit ces gens sont dingues. Et
puis après, mais ils gagnaient de l'argent.
Et ils gagnaient de l'argent. Après, je suis allé travailler 2 ans en région parisienne et j'ai eu la même réflexion en tant qu'ingénieur pour des grands comptes à Paris. Mais la question que moi je me suis posée en revenant sur l'exploitation, c'est est-ce que je massifie, je deviens plus productiviste sur mon exploitation, j'investis dans du matériel et dans du matériel végétal et dans du matériel mécanique pour avoir une production la plus efficiente possible, la plus massive possible, ou est-ce que je m'oriente vers quelque chose de plus valorisant? Et à l'époque, le bio avait aussi des effets yo-yo, comme on en a parlé avant, et stagnait un petit peu. Et bon, dans un contexte où c'était une exploitation familiale, etc., et qu'on faisait un petit peu de bouteille, on avait une certaine autonomie commerciale, je me suis dit, c'est le bio qui va fonctionner. Et c'est ce qu'on a fait. Et malgré tout ça, aujourd'hui, tout se resserre, tout est toujours plus compliqué. Alors, dans mon cas présent, j'arrive à me débrouiller tout le temps commercialement. J'ai des opportunités, mais ces opportunités, il faut les susciter. Il faut aller sur le terrain, il faut y aller. C'est difficile pour nombre de vignerons d'acquérir une compétence commerciale après 20 ans de difficultés économiques où, en fait, tous les matins, le vigneron se posait la question « Comment je fais pour diminuer mes coûts de production et garder un peu de rentabilité ?» Et du jour au lendemain, il a perdu cette compétence commerciale qu'il avait eue, ou en tout cas, il doit l'apprendre, et il ne l'a pas. Et du jour au lendemain, il faut qu'il se débrouille tout seul. Et là, c'est très compliqué. Je vais juste donner deux chiffres. J'ai rien contre le négoce. Moi-même, je suis négociant. Moi-même, je fais un petit peu de négoce, jusqu'à 100 000 bouteilles par an, quand j'en ai besoin. Mais le négociant, le négoce faisait 3 millions d'hectos de contractualisation à peu près dans les années 2000. Aujourd'hui, il n'en fait plus que 1 500 000. Donc il a diminué par deux sa voilure de contractualisation vrac. Et si on regarde les sorties propriétés, ce que font les vignerons en commercialisation bouteille, pas les rendus mises, pas les vrac, mais vraiment la bouteille qu'il fait, et à l'export et sur les différents marchés, il a perdu 10%. Il est passé de 2 500 000 hectos à ce secteur-là, à 2 300 000. Donc je vais le dire d'une façon un petit peu choc, mais le maillon faible aujourd'hui, ce n'est pas le vigneron, ce n'est pas le viticulteur, c'est le commerce qui a fait une transition. Ils étaient négociants d'élevage, ils achetaient des vins qui stockaient, et puis ils sont devenus négociants de marché, ils sont devenus un peu opportunistes, et puis aujourd'hui, ils vont devenir clairement négociants amorphes. C'est-à-dire ils ne vont plus rien faire du tout. Et l'arrachage va être une vraie problématique le jour où ils auront des volontés, parce que si on arrache 30 000 hectares, il y a 10 000 en arrachage subventionné, probablement 10 000 volontaires, peut-être plus, ça fait 30 000 hectares, pardon, et à 50 hecto-hectares, ça fait 1 500 000, on parle de cette réserve-là.
César, la question du négoce, elle revient souvent autour de cette table.
Elle revient souvent parce que le négoce, à mon avis, a été victime de deux aveuglements. Le premier, c'est de tout miser sur la grande distribution, qui est le premier réseau de vente en France et pour le négoce bordelais. Or, ce système de la grande distribution est un système à bout de souffle. On le voit en difficulté, avec beaucoup de problématiques. Donc finalement, la première jambe sur laquelle s'appuyait le vignoble et le négoce, puisque le négoce est historiquement le premier commercialisateur des vins de Bordeaux. Et le deuxième mirage, c'est la Chine, parce que je me rends compte que tout ce qu'on se dit aujourd'hui, depuis un an, deux ans, trois ans, c'est la crise. Je me souviens, les années précédentes, on le savait un peu, mais enfin, comme le marché chinois était là pour englober des dizaines de milliers d'hectolitres, aujourd'hui que la Chine est un marché en grande difficulté et donc couplé au fait que le système, le modèle de la grande distribution est en crise, le roi est nu, le roi est nu.
Je précise parce que je regardais des chiffres justement sur la Chine. Le marché chinois est revenu à son niveau de 2010. Nous sommes en 2024. Pierre-Henri Cousins, vous avez aussi des fonctions d'élu au niveau national. C'est quoi la vision nationale que vous avez de la situation? Et surtout, si vous aviez la baguette magique, qu'est-ce qui pourrait déclencher un cercle un peu plus vertueux aujourd'hui?
Au niveau national, donc moi je siège à France Vin Bio pour le titre de l'Aquitaine. Je siège aussi à l'INAO sur des questions plus réglementaires. Au niveau national, suivant les régions, vous avez des contextes très différents. En ce moment, le Muscadet fonctionne très bien, par exemple, mais ils ont perdu la moitié de leur vignoble il y a une dizaine d'années. La Loire, donc, va pas trop mal. Le Bourgogne surfe sur ses petites quantités qui valorisent très bien, mais commence à s'inquiéter un peu. La vallée du Rhône, et les bio compris, hein, parce que je parle essentiellement de ça, se débrouillaient pas trop mal. Et puis ça ralentit aussi sévèrement en grande distribution, des grosses inquiétudes. Le Languedoc-Roussillon, avec une grosse proportion de 20 pays, une indication géographique, a su pas mal se débrouiller, notamment avec leur marque Sud de France, qui était un sacré label pour aller faire de l'export, mais qui aujourd'hui a une problématique légale. Tout le monde est inquiet, tout le monde se pose des questions, j'irais même en dehors de la France, même les Sud-Africains, les Australiens, les Chiliens, tout le monde constate du jour au lendemain qu'il y a une grosse difficulté pour commercer, pour vendre son vin. On parle de changement de tendance, peut-être de faire des vins désalcoolisés, etc. Nous, on dit attention, il faut quand même... Il y a peut-être des mirages qu'il faut éviter. Il faut en tout cas toucher à tout, mais il faut faire attention. En bio, la désalcoolisation, ce n'est pas l'ordre du jour, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos dirigeants
Les prix planchers.
Les prix planchers.
Les prix planchers. Alors, on en parle beaucoup ces dernières semaines. C'est faisable, pas faisable? Il y avait une grande réunion au CIVB courant avril sur ce sujet.
Alors, bon, les prix planchers... La loi Egalim, etc., c'est un vrai complexe qu'il faut étudier. C'est quelque chose de très compliqué. Les prix planchers ne peuvent être faits que par des organisations de producteurs, pas une interprofession, sinon il y aurait entente entre les acteurs. Donc c'est compliqué. Par contre, moi, ce que je pense personnellement, c'est qu'il ne faut pas aider les entreprises qui ne sont pas vertueuses. C'est que nous, quand on nous a demandé l'obligation de faire une transition environnementale, je parle pour le bio, c'était pas une obligation, c'était une volonté, mais en tout cas, il y a eu une réelle incitation pour aller vers l'agroécologie, peut-être par le HVE, même si c'est pas ma tasse de thé, ou par d'autres, ou le Terravitis, etc.
Haute valeur environnementale.
Voilà, haute valeur environnementale. Il y avait des contreparties, des obligations du viticulteur. Tu passes, tu veux avoir accès à telle subvention, il faut que tu sois certifié. Je pense que sans être certifié RSE ou quoi que ce soit, il faut absolument qu'au niveau des soutiens à la commercialisation, il y ait une demande de respect du producteur. Je vais juste vous donner mon sentiment, c'est que c'est de l'argent public. Ce qu'on donne, c'est notre argent, qu'on cotise en tant qu'agriculteur ou salarié, etc., qui revient en fait sur les productions locales ou nationales. Cet argent, il doit être utilisé pour créer de la valeur. Pourquoi aller aider au commerce des entreprises qui vont acheter à des fournisseurs, des vignerons, à perte? C'est de l'argent qui est jeté par la fenêtre. Donc ça, c'est un minimum que moi, j'estime personnellement. Après, on peut, au niveau interprofessionnel, si ce ne sont pas des planchers, au moins caler la réalité des choses, parce qu'on a réellement l'impression que les commerçants, les négociants n'ont jamais été informés du réel coût de ce que c'était de faire un vin. Moi, des fois, j'échange avec des négociants qui me disent 1 300 € le tonneau, c'est génial. Moi, je fais 1 300, c'est super, vous allez gagner votre vie.
C'est peut-être des négociants qui se sont beaucoup concentrés sur les grands vins ces dernières années. C'est un des points qu'on a souligné tout à l'heure.
Peut-être il y a des raisons. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, produire en conventionnel, au taquet des rendements, avec un outil très productif, ça coûte au moins 1 500 € le tonneau. Donc à 1 300, on n'y est pas. Et en bio, on va être plutôt à 2 000 à 2 200 € le tonneau.
1 500, ce serait pour vous un prix minimum en conventionnel sur de l'appellation Bordeaux?
Moi, je ne parlerai pas de prix minimum, mais de prix correct. Parce que toutes les entreprises... Enfin, de prix correct, c'est compliqué de lui donner un nom. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que...
C'est le coût de production, quoi, disons.
Toutes les entreprises sont différentes. Tous les millésimes sont différents. Vous pouvez faire des économies d'échelle. Vous pouvez faire des économies... quand vous êtes un peu plus âgé, vous avez moins d'endettement, etc. C'est un réel sujet. Et... qu'il va falloir aborder. Ce qui est vraiment dommage, c'est que la loi Egalim, on ne s'y soit pas penché plus tôt dans la filière vin. Il y a eu une volonté de nos représentants aussi de ne pas avoir cette réflexion-là plus tôt. Vous savez, nous, notre structure interprofessionnelle, c'est la production et le commerce à la fois. Puis après, il y en a un entre les deux qui s'appelle la coopération. Et il faut qu'il y ait un moment, la balle revienne dans le clan des producteurs. Nous, ça fait 20 ans qu'on est dirigé de cette façon-là. Alors, on peut comprendre que dans les années 90, le rapport de force, il était différent. Mais là, 20 ans, ça fait long. Et on va perdre entre 20 et 30% du vignoble. Donc, soit on décide aujourd'hui de construire un monde meilleur pour demain, et on le fait intelligemment, et ce sera profitable pour les commerçants à terme. Soit on continue comme ça, il va y avoir un changement de rapport de force, et on se plaindra dans l'autre sens, dans une dizaine d'années.
Pierre-Henri Cosins, un dernier message, en conclusion, en guise de conclusion, un message aux viticulteurs et viticultrices, hommes et femmes de bonne volonté, en 2024. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire et quelle direction vous leur dites de prendre ?
Je pense qu'il faut clairement qu'ils adaptent leur vignoble à leurs possibilités commerciales, qu'il faut compter que sur soi-même pour l'instant. Ne pensez pas au retour en arrière pour ceux qui ont embrayé la transition agroécologique, parce qu'en France, ce sera toujours un moyen de valorisation. Et sur les marchés exports, ça fonctionne. 40% des vins bio s'exportent, c'est pas pour rien. Puis, la viticulture, on est tous des touche-à-tout. On fait un peu de tout. Donc il faut aussi faire un bilan de compétences pour savoir où on est les meilleurs. En général, on fait une bêtise tous les jours dans ce métier-là. Il faut à un moment se poser, se dire où est-ce que je suis bon. Et si demain, je ne sais pas commercer, comment je trouve des débouchés pour mes raisins? Comment je fais? Alors, est-ce que c'est la coopération? Est-ce que c'est la contractualisation avec le négoce? Ou est-ce que c'est le marché du coin? Et puis finalement, je vais peut-être me diversifier sur autre chose. C'est compliqué. On est tous des passionnés et on porte beaucoup. Et c'est pour ça que pendant 20 ans, finalement, on a accepté trop de choses. Il faut à la fois tenir, mais à la fois aussi se faire entendre. Et pour se faire entendre, il faut aussi qu'ils soient présents dans leurs instances et qu'ils disent ou qu'ils prennent le pouvoir pour que les choses changent. Parce que si on ne change rien, on continuera comme ça un bon bout de temps.
Merci Pierre-Henri Cosins. Merci César.
Merci.
Et je retiens cette question que vous avez énoncée et qui traverse tout le vignoble. Comment on va valoriser nos vins. Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à m.herve@sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À bientôt, d'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous. Merci. À bientôt.